auditeur, votre rêve est exaucé. Je suis là.
Quelle intro, Pierre-Marie.
Bonjour.
Ça, tu l'as bossé.
Ouais, c'est magnifique.
Ça ressemble à Paris.
Ah ouais, mais en fait, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus, les gars, là.
Bah ouais.
C'est pour ça qu'on dit bonjour aux éditeurs.
Oui, on dit bonjour aux éditeurs. Ouais.
Non, mais ça fait 3 ans et demi, donc je pense qu'il y a une génération nouvelle d'éditeurs.
Romuald, donc, il n'était pas revenu depuis 3 ans et demi.
Et ouais, ça fait plaisir de te voir là.
Oui, ça fait plaisir d'être là aussi.
Ouais. Bon. Jean-Hugues qui nous fait quand même quelques chroniques de temps en temps, de chez lui des fois,
voilà.
Souvent. Et on va enfin pouvoir faire cette émission spéciale dont on parle depuis le mois de juillet dernier. Date à laquelle j'ai acheté ce gros livre d'Iceman.
Montre-le au micro.
Ian Livingstone avec Steve Jackson, Les origines de Games Workshop, qui est paru chez Arkane Asylum. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il y a plein de trucs qu'on aime quand même dans toute cette histoire. Et donc, ouais. On pourrait faire une émission spéciale. On a encore des gens qui vont arriver, hein, qui vont pouvoir intervenir. Et puis, je me suis dit, bah, faut vraiment que Jean-Hugues soit là en live ce jour-là, parce que lui, il les a rencontrés, Ian Livingstone et Steve Jackson.
Et donc, Jean-Hugues, t'existes vraiment, en fait, c'est ça le truc. T'existes
voilà.
Vraiment, puisque tu le vois maintenant.
Tout à fait. C'est magnifique.
Alors, on va commencer par un petit peu de musique. Et moi, je me suis dit, Games Workshop, j'associe ça immédiatement avec un groupe de métal que je n'aime pas du tout. Et donc, on va s'écouter ça tout de suite sur le 101.5.
Ouais.
C'est Bolt Thrower, groupe de death metal anglais qui avait, enfin, sur quelques albums, un partenariat avec les Games Workshop. Et donc, ils avaient notamment des pochettes illustrées. Et c'est parti, ça va quand même bien défourailler. Karine n'est pas là avec nous ce soir, mais ça va quand même faire du bruit.
On pense
dans l'imaginaire. Ouais. Hein. Donc dans Imaginaire sur le 101.5, voilà, un groupe de death metal anglais qui avait un partenariat avec les Games Workshop. Tous les morceaux, je crois, parlent des univers de Warhammer, hein, donc Warhammer Fantasy pour pour le médiéval fantastique, et puis Warhammer 40 000 pour de la science-fiction.
Oui, mais pas que, ouais.
Culte,
on va avoir le temps d'en parler.
Etc. Voilà. Roman nous expliquera ça tout à l'heure. Donc des visuels qui étaient faits par les illustrateurs des Games Workshop, notamment Adrian Smith. Et donc là, c'était un extrait de leur deuxième album, Realm of Chaos. Sorti en 89 sur le label Eric, et pour la petite histoire, quand ils ont réédité l'album en 2022, plutôt en 2002, ils n'avaient plus les droits pour leur visuel, donc ils ont été obligés de refaire une pochette car ils n'avaient plus de deal avec
collecteur.
Ouais, donc le, effectivement, si vous avez la vieille version, celle des années 90, on va dire, ouais, c'est peut-être collector. Bon. Alors, on va passer à la chronique de Jean-Hugues. Alors, comme c'est une émission un petit peu spéciale...
Bah oui, si on peut éviter la chronique de Jean-Hugues, moi ça m'arrange.
J'ai pas apporté les jingles.
J'ai mis mon jingle, non, mais je rêve.
Alors, on lui chante.
Allez.
Ah oui.
Jingle.
Félicitations, c'est un
clamart de Casbah.
Bon, ils font tout à l'envers.
On est bon, là.
Chères auditrices et auteurs, chers amis, ma chérie, bonsoir. J'ai eu la chance de rencontrer Steve Jackson et Ian Livingstone le millénaire dernier à Nottingham, de déjeuner, de bavasser avec eux, et ne nous cacherons pas de les trouver sympathiques. Du coup, Romain, l'animateur en chef de ce plateau, m'a prêté un gros bouquin rouge écrit par les deux suscités au doux nom de Dice Men, ce qui voudrait dire les hommes dés pour nos auditeurs ayant choisi le Monténégrin en première langue. Alors, le regardant avec ma naïveté coutumière, quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre quasi m'ordonner, ben voilà mon coco, vu que tu as rencontré ces mecs-là, à toi de faire la bio pour la radio. Dire que j'ai un peu traîné les pieds est un doux euphémisme, j'ai horreur que l'on m'appelle coco.
J'ai vraiment dit ça?
Non.
Ah bon?
Quand jeudi dernier, lors d'une des réunions festives imaginaires, où j'ai fait préparer pour égaler mes convives une délicieuse carbonade flamande que j'ai cru qu'ils allaient me bouffer ma cocotte en fonte, le même Romain me fait « Rends-moi mon bouquin, coco, puisque t'en fais rien. » Un élan de compassion effréné m'a pris et je lui ai dit « Bon, ok, Roro, je te fais ça pour mardi. » Résumons, l'émission Games Workshop se fait donc ce soir. Et pour décrire la bio de cette entreprise, je me suis vautré, parce qu'appuyer, ce serait un peu trop faible, sur Dice Men. Et je dois bien reconnaître que moi, le dinosaure de l'équipe dans le jeu, puisque j'ai commencé à jouer en 1977, j'ai appris plein de choses étonnantes. Alors le bouquin est une success story à l'anglo-saxonne, bourré d'iconographie passionnante par moments et totalement inutile à d'autres. Pour ma part, ça finit en eau de boudin, mais ça c'est mon côté. Je ne quitterai jamais l'entreprise que j'ai fondée, à moins qu'on me chasse. Ce qui m'est arrivé bien trop souvent. Mais d'un point de vue capitalistique, ça s'est sûrement bien terminé, rassurez-vous, pour Steve et Ian, ok? J'ai fini mon préambule. Je vous fais un petit résumé du bouquin Dice Men, sorti chez Arkham Asylum en juillet, au doux prix de 40 euros quand même.
Ouais, quand même. Et alors, pourquoi, d'après vous, c'est sorti chez Arkham Asylum?
Alors, c'est une excellente question.
Parce que c'est l'éditeur de jeux de rôle français, plutôt des gens qui traduisent tout ce qui nous vient chez Free League, là, Alien, Tales from the Loop, etc. Ils avaient peut-être fait un livre sur le MJ, ah je sais plus, c'était une espèce de bande dessinée avec des blagues sur les rôlistes. Bon, c'était pas très intéressant. Et là, paf, ils font ce livre. Romal, t'as une idée?
J'ai une idée, ouais, mais je pense que j'ai la réponse dans ma petite intervention de tout à l'heure.
Ok.
Mais je suis pas sûr en fait de moi.
Donc moi, je dirais que c'est un lien avec Mathieu Saint-Toux, leur.
Ah, ça a peut-être un lien avec l'appel de Cthulhu, tout simplement.
Ah ouais. Bon.
Mais je vous expliquerai. Ah,
bon, on aura tous des hypothèses alors. Continue.
Alors, Steve Jackson et Ian Livingstone sont des potes depuis leur jeunesse, voire leur enfance. Et à leur début, il y a John Steve qui bosse avec eux dans la chambre de Steve Jackson où ils fabriquent des jeux. C'est leur passion, alors des jeux en bois, des machins, tout ça. Alors, la chambre de Steve Jackson étant leur atelier pour fabriquer des jeux, ils décident de s'appeler de manière très originale Atelier de jeux, ce qui, dans la langue de Mick Jagger, se traduit par Games Workshop. Ils éditent un fanzine, Hall & Wiesel. Alors, chouette et belette, ça veut dire, ne demandez surtout pas pourquoi, tiré à 200 exemplaires. Alors, 200 exemplaires, pour vous donner une idée, avant d'être téléchargeable sur le web, La Tête en Noir, ça tirait à 1000 exemplaires.
Ça tire, mais est-ce que c'est lu? C'est toujours la question.
Ah ben, c'est le problème du fanzine, on sait ce qu'on distribue, on ne sait pas
je
ce
que... Je pense que Games a été lu, parce que sinon, ils ne seraient pas où ils ont...
En 75, ils découvrent Donjons et Dragons lors d'une convention, et quasi en même temps, Gary Gygax... qui est le génie qui a inventé Donjons et Dragons, découvre Olin de Wisell et leur demande s'ils n'éditeraient pas des suppléments, des scénarios Donjons et Dragons dans leur fanzine. John Steve trouve ça nul et du coup il quitte la bande. Encore un visionnaire. Bon, ils en bavent un peu financièrement, les gars. Hein. Ils achètent des stands dans les salons, mais ils n'ont pas de quoi se payer l'hôtel. Du coup, ils dorment dans le van de Steve Jackson, surnommé affectueusement le van Van Morrison. Ça ne m'étonne pas que ça te fasse rire, Pierre-Marie. En 77, ils organisent le premier Games Day. En 78, ils éditent même une version souple qui est collector du Player's Handbook de Donjon pour ADD, donc Advanced Dungeons and Dragons. Alors ça c'est en 78, alors de temps en temps je reviens en arrière, mais c'est parce que le bouquin est fait comme ça.
Oui.
En 76, il part pour un road trip américain de 2 mois qui va se terminer par la GameCon à Lake Geneva, où il dîne avec Fritz Leiber, des épées entre autres, et Gygax. Il récupère la distribution de TSR pour le Royaume-Uni. En 77, il rencontre même Scott Bizarre de Fantasy Games Unlimited, le mec qui a fait Space Opera, Bushido, Daredevil, etc.
Non, déjà, qui existait déjà à l'époque.
Ah bah oui, c'est quasiment en même temps que Gigatron.
Là, c'est des jeux de rôle, hein, c'est bien ça.
Ouais,
c'est
des jeux de rôle. D'accord.
Alors, Scott Bizarre que j'ai connu aussi, mais ça, je vous rencontrerai ça une autre fois.
Ah non.
Et ils sortent le magazine White Dwarf, qui est tiré en 6000 exemplaires, qui est devenu collector.
À l'époque,
oui. Et qui leur a servi à faire de la pub pour Games Workshop. C'était essentiellement le truc. En 78, ils déménagent du placard qui leur servait de bureau et recrutent 4 personnes. White Dwarf numéro 28 tire à 15 000 exemplaires. En 79, ils se lancent dans la figurine avec Asgard et ils fabriquent des références Ralparta. En 78, ils dealent avec un monsieur très important dans le monde de la figurine qui est Brian Ansel et ils fondent Citadel Miniature. Brian démissionne en 81, puis revient en 82, mais là il est directeur général. En 82, l'équipe réfléchit à un wargame avec figurines de fantasy. En fait, comme la racine de Donjons et Dragons, qui était au départ
Chainmail,
ouais, qui était un wargame pour figurines de fantasy. En 83, White Dwarf annonce la création de Warhammer. La première édition tire à 3000 exemplaires, mais il y a des failles dans les règles. Ils font une deuxième édition corrigée en 84. Et en 87, il y a eu 40 000 exemplaires de Warhammer de vendus. C'est l'histoire de Warhammer figurine. Mais pour l'apport de jeu de rôle, ça merdouille avec TSR. Il y a Gygax qu'on voit, son homme d'affaires. Il veut tenter une fusion entre TSR et Games Workshop. Mais sur le principe, 66% pour moi, 33% pour vous. Étonnamment, Steve et Yann refusent. Gygax se déplace en novembre de la même année pour tenter de les décider, et toujours non. Alors ça le vexe un peu le Gary.
Il était facilement vexable, Buffy, aussi.
Bon. Oui, on sait, parce que nous, on l'a rencontré en vrai avec Clermont.
Mais tu nous raconteras ça dans une autre émission.
Histoire, oui. Alors, Gary accepte cependant le livre de monstres qu'ont fait Steve et Yann à partir de choses anglaises. Ce sera le Fien Folio. Et si, tu sais, il y a les Git Yankee et tout ça.
Les
Git Yankee, qui est un monstre qu'on retrouve dans le Baldur's Gate 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là.
Ah bon, d'accord.
Mais ni Games Workshop, ni les deux hommes ne seront crédités. On ne le voit pas dans le bouquin. Fien Folio, on savait que c'était anglais, mais on ne savait pas qui l'avait écrit. Mmh. Et en fait, ils ne les ont pas mis, ce qui n'est pas gentil. Et en plus, TSR vire Games Workshop pour la distribution de Donjons Dragon. Bon, ils arrivent à se récupérer parce qu'ils récupèrent Chaosium, donc l'appel de Cthulhu, RuneQuest, etc. Mais c'est un peu juste. Ils restent quand même potes avec Gygax, qui d'ailleurs leur demande de faire les figurines Donjons et Dragons avec Citadel en 1985, début 1985, pas de bol. Gygax se fait virer de TSR la même année, en novembre. La situation se détériore un peu chez Games Workshop, ils ont un peu de mal. Et en 86, White Dwarf décide de plus faire du tout de Donjons et Dragons dans ses pages. TSR en plus a monté TSR Royaume-Uni et sort un magazine qui s'appelle Imagine, ce qui rompt définitivement les rapports entre eux. Alors on va retourner dans le passé, c'est pas ma faute, hein, c'est le bouquin. En 78, ils ouvrent leur première boutique. Alors c'est un peu dur parce qu'à l'époque, c'est en plein époque jeu de rôle sataniste chez les anglo-saxons.
Ouais, puis il y a aussi au cinéma, enfin en VHS, la période des vidéonasties. C'est-à-dire qu'on a fait un gros ménage aussi dans les films d'horreur qu'on pouvait trouver dans les vidéoclubs.
Alors, uniquement
en interdisant une centaine ou quelque chose comme ça.
Uniquement en Grande-Bretagne, c'est ça?
Oui, ouais. Donc il y a une panique morale quand même un peu à l'époque.
Ouais, absolument.
La Thatcher, elle est arrivée un an plus tard. C'était très lié aussi, sans doute, à l'esprit de l'époque.
Alors, ils arrivent à trouver un accord avec une maison de jeux qui s'appelle Eon, qui leur permet de distribuer entre autres deux jeux merveilleux qui m'ont grillé de nombreuses nuits. Cosmic Encounter, qui a été ressorti chez Jeux des Cartes sous le nom de Rencontre Cosmique, et Kings and Things, qui était un très très joli jeu de stratégie avec des trucs qui bougeaient. Enfin, c'est assez rigolo.
Alors, Cosmic Encounters, on a fait une chronique dans cette émission à l'époque où Patrice nous faisait sa rubrique rétro-jeu.
Ah,
d'ailleurs, je crois que c'est un de ses jeux favoris.
Ah bah, c'est son jeu favori, il aimerait bien pouvoir y jouer d'ailleurs.
Tous les samedis.
Avec Bruno Feduti, qui est devenu depuis un très grand créateur de jeux de plateau, on a passé des nuits à jouer à Rencontre Cosmique.
Et qui était un jeu quand même bien barré.
Bah en fait, c'est assez intéressant parce que donc il y a des règles de jeu et on a des cartes pour jouer qui changent toutes les règles du jeu.
Exactement.
Ouais. Voilà. Mmh. Et Bruno Feduti avait, alors il avait fabriqué ça lui-même machin, mais il avait récupéré toutes les extensions qui étaient sorties parce qu'en France il y a dû y en avoir que 3-4 de sorties et en fait il y en a 10 ou 12. Donc, on passait des nuits entières.
C'est le genre de jeu, je pense, où tu peux tirer une carte qui dit « Ah, vous avez gagné ». Et ça fait 7 heures que tu es en train de jouer au truc.
Le truc, c'est que toi, tu as un pion qui vaut un point et tout, et un mec qui a un pouvoir qui dit « Ah, ben, moi, j'ai level 4 ». Ah, ok. Ce genre de choses-là. Ou tu as des pouvoirs qui font « Je te pique ton pouvoir, tiens, toi, tu as celui-là ». Etc, etc. Bon, bref. Donc, en 86... du coup, Games Workshop se lance aussi dans les jeux de plateau. Il publie des jeux de plateau qui sont dingues, hein, puisqu'il y a Talisman, Judge Dredd, Battle Cars et Le Sorcier de la Montagne de Feu. Et je vous ai dit que j'avais grillé des nuits sur ces trucs-là.
Alors, Le Sorcier de la Montagne de Feu.
Eh ben, le jeu de plateau. Avant de devenir.
On reparlera.
On en reparlera.
On en parlera plus tard. D'accord.
Allez, je vous fais une petite anecdote. Il y a un jeu de plateau qui s'appelle Warlord que je ne connais pas. Alors, la boîte rouge, c'est la première édition, c'est le jeu de plateau préféré de Steve Jackson, sauf que, pas de bol, il l'a pas. Et en 89, il se balade au salon du jeu de Essen, qui est le plus grand salon de jeu du monde. C'est génial. Je vous raconterai mes soirées avec l'équipe White Wolf et Claudia Christian.
C'est qui?
Claudia Christian, c'est Ivanova dans Babylon 5, elle avait posé nul en Playboy.
Ah ouais, d'accord, quand même.
Je raconterai ça. Okay. Donc Steve se voit la boîte rouge chez un marchand d'occasion sur place et il dit comme un malade. Et à la fin, le vendeur il fait bon, stop, je négocie plus avec vous. Faut savoir que Steve Jackson il le cherche. Steve Jackson en fait. Ben. Bon allez, une autre. Alors pour la sortie de leurs 4 premiers jeux de plateau, alors Games Workshop utilise une accroche de la mort. Il y avait Empire Strike Back qui était venu de sortir et ils ont fait British Empire Strike Back. Parce qu'il leur voit un avertissement sans frais de Lucasfilm qui leur dit « Vous verrez tout ça, sinon vous allez mourir. » Alors, début des années 80, Games Workshop déménage à Nottingham, c'est là où je suis allé. Les boutiques ouvrent trop lentement à leur goût, mais ils arrivent à ouvrir une première boutique aux États-Unis en 84. 84, c'est l'idée géniale des défis fantastiques, donc les livres dont vous êtes les héros publiés en France par Gallimard et Folio Junior. Et en fait, les deux garçons présentent l'idée, ils veulent pas le sortir eux-mêmes, donc ils vont voir Penguin Books.
Alors en fait, il me semble que c'est plutôt une initiative de Penguin Books, non?
Ah, pas du tout.
Qui les contacte pour leur demander de faire un... plutôt un... comment je dirais, un genre de que sais-je sur Donjons et Dragons, à la base.
Alors, à moins qu'ils mentent là-dedans. C'est
l'inverse.
C'est pas tout à fait ça.
Et à mon avis, c'est pas 84, c'est 82. Parce que je crois que 84, c'est la première traduction des livres dans les en France.
Est-ce que t'as vraiment travaillé?
Ah oui, t'as raison, c'est 82, puisque la montagne de feu sort en 82, voire même c'est en 80.
Est-ce que t'as vraiment
lu ce livre? Alors, donc, il présente l'idée à Penguin Books. Sur les gens à qui il présente, il y a une personne qui trouve ça génial, toutes les autres se foutent de leur gueule et disent non. Mais le département jeunesse de Penguin Books, qui n'a rien à voir avec Penguin Books, trouve le projet intéressant. Il commande le bouquin, mais il leur faut en 6 mois. Les deux se mettent au boulot, alors faut savoir qu'ils n'avaient pas que ça à faire.
Voilà.
Donc il y en a un qui prend la moitié du bouquin, l'autre avec l'autre moitié, avec un narratif qui se croit sur une rivière qui est effectivement dans le truc. Alors faut bosser un peu parce que les deux styles sont différents, voire même pour les caractéristiques des trucs, même pour les règles.
Ouais.
Mais ça sort en 82, donc c'était pas en 84. C'est une faute de frappe, hein, sûrement. Oui. Et c'est le beat total jusqu'à une émission de la BBC où il y a Steve et Ian qui font jouer des jeunes auditeurs en direct.
Au téléphone, un samedi matin.
Ouais. Et là, ça démarre du feu de Dieu. Le succès est colossal. D'ailleurs, en multiples langues, il y a eu 20 millions de sorciers.
De la montagne de feu, quand même, ok.
20 millions, ouais. Donc, il commande deux autres, Penguin commande deux autres titres, La Citadelle du Chaos de Steve Jackson et La Forêt de la Malédiction de Ian Livingstone. Mais le rythme de parution devient un peu trop élevé. Ils font appel à d'autres auteurs et la collection devient Steve Jackson et Ian Livingstone présentes.
Et notamment des collègues des Games Workshop.
Hein, ouais, absolument.
Des employés.
Alors, Brian Lumsell, lui, pendant ce temps-là, il fait bon, ça suffit les conneries. On arrête de distribuer les éditeurs qui sont pas nous. On se consacre uniquement aux produits Games Workshop et ceci de manière à augmenter les marges. En 87 et 89, Steve et Ian vendent leur part à Brian Anselm, donc ça se vend deux fois. Et Brian Anselm, lui, en 90, il vend tout à un Capital Investment. En 94, Games Workshop rentre en bourse. C'était il y a presque 30 ans.
Ok, alors on continue en musique. Et alors cette fois, on va s'écouter Saxon. Pourquoi ? Déjà parce que aujourd'hui on a vu qu'ils étaient tête d'affiche du Hellfest 2024 et moi j'ai fait ma petite recherche, c'est un des quatre groupes à avoir sorti un album sur le label Warhammer Records dont j'ai l'impression qu'il a duré en gros un an, en 93. Donc à l'époque Saxon avait un album qui s'appelait Forever Free et on s'écoute ça tout de suite dans Imaginaire sur le 101.5. j'espère que Karine nous écoute parce que là, on n'aura jamais passé autant de métal dans cette émission.
C'est un chauve.
Ouais. Okay. Donc, Saxon qui existe encore 30 ans après et qui seront la tête d'affiche du samedi du Hellfest. Alors là, si mes calculs sont bons, ils vont passer après Metallica.
Oui, alors la tête d'affiche, oui, voilà, c'est une des têtes d'affiche.
Est-ce qu'ils sont sur la main stage, je sais plus comment on l'appelle, la 1 ou la 2. La 2, celle où il y a plus de groupes. Et donc, tu vois, il y a 9 groupes sur la 2. Et donc, c'est toujours la tête d'affiche du. Alors après, il y a aussi Bruce Dickinson, qui est un petit peu en dessous sur l'affiche.
Alors,
donc,
Bruce Dickinson.
C'est quand même une sacrée tête d'affiche. C'est le chanteur d'Iron Maiden.
Voilà, c'est ça. Donc, il va venir en avion, peut-être, comme d'habitude. Il pilote des avions.
Ouais, il fait plein de choses, ce monsieur. Il est aussi champion d'escrime et tout. Un peu comme Steve Jackson et Ian Livingstone, le gars de multiples vies. Il y a des trucs, c'est marrant. Quand j'ai vu cette affiche, quand même, je me suis dit, tiens, ça existe encore. Par exemple, Yngwie Malmsteen, ça vous dit quelque chose?
Non.
Ah, bon. Alors, Pierre-Marie, tu nous as choisi une shreddeuse un peu plus tard comme sélection musicale dans l'émission.
Oui, mais alors.
C'est quelqu'un qui joue de la guitare électrique à. Et alors, Yngwie Malmsteen, c'était le guitariste le plus rapide du monde. Enfin, c'est lui qui le disait, hein. Et il s'était compté à 32 notes à la seconde. Alors on verra si 35 ans après ses albums les plus célèbres, c'est toujours le guitariste le plus rapide du monde. Surtout que bon, il y aura de la concurrence. Il doit y avoir quoi, 200 groupes de programmés au Hellfest. Et notamment le même soir, il y a Extreme, je sais pas comment on dit, Extreme, qui est un groupe de hair metal qui avait cartonné quand même avec une balade en France, More Than Words. Et ils ont à la guitare Nuno Bettencourt, qui est une des stars aussi, un guitar héros.
Je connais Bettencourt, mais...
Et tout ça, ça ferait quand même
bravo pour la blague. Franchement,
une bonne bande son pour Warhammer justement, puisqu'ils sont très 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 métal. Warhammer.
Ouais. Et d'ailleurs, donc les albums qui étaient sortis, on va peut-être avoir le temps de s'en écouter d'autres extraits dans cette émission sur Warhammer Records. C'est que du hard rock, notamment du hard rock assez choupi, quoi. On s'écoutera plutôt ça en fin d'émission. Moi, un truc que je trouve qui colle pas trop, justement, un peu à l'univers de Warhammer, qui est quand même un peu plus cradzouille que tout ce qui se faisait, je trouve, un peu dans le même genre. Bon, revenons vers Jean-Hugues, qui a rencontré Steve Jackson et Ian Livingstone.
Absolument, et c'est un grand bonheur. Alors, je venais d'arriver à Paris, et donc j'avais fait la connaissance des gens d'Infojeux, puisqu'ils éditaient mes scénarios. Infojeux magazine, oui. Et donc, ils me font « Qu'est-ce que tu fais tes jours ?» Je fais Et donc, je travaille. Ils me font assez con parce qu'on va à Nottingham rencontrer Ian Livingstone et Steve Jackson. Et ben, je travaille plus. Donc, on était là-bas. On est arrivé dans les bureaux de Games Workshop à Nottingham. Bon, moi, je faisais pas trop le malin, mais on était avec des, bon, Jacques, pour l'impressionner, faut quand même y aller.
Ouais.
Jacques Pimboin, donc le barman d'Imaginaire aujourd'hui.
Ah, il était là aussi.
Ah oui, oui.
Bah oui, forcément. Et c'était le rédacteur en chef d'Infojeux Magazine.
Alors, c'était le maquettiste d'Infojeux Magazine. Ouais. Et le graphiste quand les gars rendaient leur dessin trop tard. Et qu'il fallait sortir le canard. Et donc, on arrive là-bas, au secrétariat et tout. On fait, on a rendez-vous à telle heure, machin. Oui, c'est dans 10 minutes, asseyez-vous. On attend un quart d'heure, 20 minutes. Et là, on voit arriver une Porsche avec les clubs de golf derrière et tout. Et c'était eux. Ils revenaient de jouer au golf. Je pense qu'ils étaient un petit peu moins impliqués dans l'époque. Donc, ils nous reçoivent.
Mais ils venaient quand même pour une réunion.
Ah,
ils venaient
pour une réunion de travail, absolument. Bon. Avec des petits Français. Ils aimaient beaucoup les Français. Et donc on commence à bavasser dans leur bureau et tout, puis ça devient passionné, les projets, les machins, tout ça. Et nous, on venait en fait pour récupérer des droits sur White Dwarf, récupérer des trucs qu'ils avaient édités dans le temps pour pouvoir les mettre dans Infojeux Magazine.
D'accord, parce que c'est vrai que White Dwarf Magazine, c'était le magazine qu'on était un peu obligé d'acheter des fois pour pouvoir étendre un petit peu l'univers de son jeu, notamment.
C'était des scénarios, à l'époque aussi. C'était des scénarios qui étaient anglais et pas américains, et donc qui sortaient totalement des standards de ce que sortaient les américains. C'était extrêmement original comme scénario.
Donc quand je dis que les Games Workshop, ils avaient un côté un peu décalé.
Ouais, on peut dire ça. En sachant que oui, les créateurs de monde et les scénaristes qu'il y avait dans l'équipe de départ sont restés. Quand ils ont abandonné TSR et qu'ils sont mis à Warhammer, ils sont restés là. Et c'est devenu les créateurs de monde comme il a pu exister, comme Arnaud Cuillet l'a été pour des confrontations et tout ça. Donc ils nous font bon. Allez, on va les bouffer. Bon, alors, ça, par contre, on aurait pu éviter, parce qu'effectivement, nous avons dans un truc, c'était pas très bon. Mais ils nous ont donné un scénario de White Dwarf et Lahouri, donc un personnage légendaire de Donjons et Dragons. Lahouri, c'est une classe de personnages pour Donjons et Dragons dont les armes sont essentiellement les séductions. Alors, c'est surtout pour faire de l'urban fantasy, hein. C'est vrai que dans un donjon, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Mais c'est un personnage assez rigolo qui a intégré d'ailleurs assez vite les parties de jeux de rôle pendant un certain temps. Et ça a eu une mode. Mais c'est vrai que bon, elle a le droit à la dague, charme. On peut difficilement résister à ses suggestions. Enfin voilà. Mm-hmm. Donc et alors après, et ben après, il s'est rien passé parce que c'était la fin de c'était 85-86, c'était la fin de leur vie dans Games Workshop. Alors y en a un des deux, je voudrais pas dire de conneries, c'est peut-être bien Ian Livingstone qui parce que j'ai passé des trucs. Hein. Par exemple, ils sont mis dans le jeu vidéo à un moment Games Workshop.
Ils parlent quand même aussi dans cette quasi autobiographie. Puis moi, je trouve que c'est plus Ian Livingstone qui parle d'ailleurs dans ce livre que Steve Jackson. Ils parlent aussi de leurs échecs. Hein. Oui. Ils sont assez francs là-dessus, quoi.
Ouais.
Parce qu'ils se sont beaucoup dispersés en fait finalement.
Ouais.
Enfin, ils ont plein de trucs qui ont marché.
Enfin, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que rien qu'avec les royalties qui touchaient sur les
Fighting Fantasy,
les défis fantastiques, ouais. Ils avaient de quoi vivre comme des rois pendant plusieurs générations. Donc,
c'est vrai qu'il faisait, d'ailleurs.
c'est ce qu'il... Mais il y en a un des deux, je me souviens plus lequel, qui s'est lancé il est rentré comme créateur de monde dans une boîte de jeux vidéo.
Il y en a un qui a été anobli aussi, je crois, par la reine d'Angleterre, il me semble.
Alors,
il me semble, ouais.
Enfin, en plus, c'était des geeks. Bon, ils avaient 10 ans de plus, ils ont 10 ans de plus que moi. Mais, c'était déjà des geeks, hein. En 86, ils avaient donc, une quarantaine d'années, 45 ans, ils partaient à la retraite, quoi. Ils étaient très, 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 très cool, super sympa, adorable.
Bon, et sinon, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'endroit, là?
Écoute, c'est un bureau et une usine. Hein,
un entrepôt, ouais. Quoi, en fait.
Alors, c'est pas qu'un entrepôt, parce qu'il y a quand même, pareil que dans ce genre de boîte, hein, il y a des bureaux où il y a des mecs sur des open space qui sont en train de réfléchir. Ah non, je pense que là, il faudrait qu'on installe tel style de monstre, qu'il ait telle caractéristique, machin, tout ça. Et puis, jouer.
Même au boulot le soir, quoi,
ouais,
en gros.
Ouais. Ouais. Ils jouaient, y compris avec Steve Jackson et Ian Livingstone, qui sont deux gros joueurs.
Ouais.
Et donc, ils jouaient, mais pas qu'à des produits Games Workshop. Hein. Ils faisaient des parties de jeux de plateau.
Et alors, c'est quand même, si on parle des jeux, je sais pas, Romain, tu vas peut-être en parler un peu des jeux ensuite sortis par les Games Workshop dans les années 80.
Ouais, alors il y a beaucoup de choses à dire, oui, effectivement.
Parce que j'aborde tout de suite, il y a quand même HeroQuest, par exemple.
Oui, tout à fait.
HeroQuest, c'est un ancien. Ouais. Tu t'allais en parler?
Alors non, c'est pas ça, c'est que je voulais compléter ce qu'a dit Jean-Hugues.
Ouais.
Parce que évidemment on a préparé chacun de notre côté, il y a un peu de redite, mais déjà il faut aussi annoncer qu'il y a une boutique de Warhammer qui a ouvert à Angers
c'est
au mois d'avril.
C'est aussi un petit peu pour ça qu'on fait cette émission.
Voilà.
À un moment j'ai senti une espèce de frétillement de ce côté-là.
Donc s'il y a des Angevins, ouais, qui nous écoutent ou des gens qui sont pas trop loin d'Angers, en tout cas qui sont plus près d'Angers que de Nantes ou que de Tours, vous avez donc c'est rue Saint-Julien, donc c'est dans le centre-ville là où vous savez la rue où il y a l'immeuble qui passe au-dessus de la pas très loin de la poste. Et donc c'est une boutique très très moderne, hein, puisque ça, avant ça s'appelait Games Workshop, les boutiques Games Workshop, et depuis quelques 2-3 ans peut-être ils ont commencé à les renommer Warhammer, parce que c'est leur jeu phare, alors leur jeu avec un S, puisqu'il y a beaucoup de jeux qui s'appellent Warhammer.
Et Pierre-Marie va nous chroniquer un livre dans cet univers. Hein,
oui, mais justement, pour compléter tout ça, effectivement, alors... Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est les livres-jeux de Ian Livingstone et puis Steve Jackson, ils ont fait un carton aussi en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup en Angleterre. Parce que il faut se rappeler, alors les gens de plus de 40 ans, comme pas mal de certains autour de la table, en tout cas, se rappellent vraiment que ça a vraiment cartonné. Moi, j'étais gamin, j'en ai je ne sais combien, on peut en trouver en plus pas cher dans les brocantes aujourd'hui. Et c'était un vrai phénomène, quoi. Qui a été imité, mais qui a jamais pu, en fait, être égalé.
D'ailleurs, les instits étaient stupéfaits parce que des gamins qui lisaient même pas, qui ne voulaient même pas lire les BD, se mettaient à lire ces livres. Vous êtes le héros.
Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés quand même, on va dire, à cette culture geek par le livre dont vous êtes le héros, en fait. Hein.
Ouais.
qu'ils ont croisé dans une bibliothèque ou dans une librairie. Ça a peut-être été l'élément déclencheur. Je lisais l'autre jour une biographie de Marc Sautrio, qui est l'actuel rédacteur en chef de Casus Belli. Ça a commencé par il a trouvé L'Œil Noir, un livre dont vous êtes le héros de la série L'Œil Noir, dans sa bibliothèque. Et après, il a appris que c'était un jeu de rôle et tout, et il est rentré dans le monde du jeu de rôle par là, et comme beaucoup de gens, un peu partout.
Ouais, parce que Games Workshop, en fait, ils étaient très, dès le départ, ils ont été très orientés sur les jeux qu'ils appelaient progressifs. Alors c'est peut-être une mauvaise traduction, comme la musique progressive, c'est-à-dire que c'était des jeux qui devaient évoluer, proposer autre chose dès 75, dès le départ. C'est pour ça que le troisième fondateur, dont personne se rappelle, est parti au bout d'un an ou deux, je crois, parce que lui voulait jouer au backgammon, quoi. Et ils ont déjà pensé aux jeux vidéo dans les années 70, de faire quelque chose sur les jeux vidéo. Et ils n'ont pas distribué que Donjons et Dragons.
Ah non, oui,
ils ont distribué aussi, moi j'avais noté, RunQuest.
C'est ce que j'ai dit.
Avec Chaosium, c'est ça.
Le jeu de rôle Les Terres du Milieu, dans l'univers de Tolkien, quand même, qui était quelque chose. Ouais. Et L'Appel de Cthulhu. C'était les premiers à avoir fait ça. Et non seulement c'était les premiers à avoir fait ça en Angleterre, au Royaume-Uni, mais ça a eu une influence sur l'Europe entière. Parce qu'en fait, ces jeux de rôle-là, ils sont rentrés en Europe grâce à Games Workshop. Et les premiers jeux de rôle étaient des jeux de rôle américains. Ce qui s'est passé aussi, c'est que effectivement, ils ont sorti des gros jeux de rôle. Alors, je ne sais plus, c'est en 83 Warhammer Battle, c'est ça, 83, quelque chose comme ça. Chez nous, c'est arrivé beaucoup plus tard. Je crois qu'on a eu la deuxième version seulement, ce que j'ai dit tout à l'heure en off. On a eu la deuxième version qui était traduite, pas la première, qui a dû arriver en 86-87 en France. Et en fait, ils ont tout de suite fait, on va faire des jeux de société sur plateau avec des figurines que eux-mêmes produisaient dès 78 ou 79 à travers une sous-marque qui s'appelait Citadel. Et qui, alors je ne sais pas si l'entreprise existe encore, mais la marque existe.
Alors, en fait, l'entreprise existe encore, mais c'est la spécialisée en modélisme.
Dès le départ, en fait.
Il y avait une subdivision qui était, Le Game Workshop avait les figurines, on va dire, basiques. Citadel avait tout le matériel de modélisme. Et il y avait aussi une entité qui s'appelait Forge World, était la spécialisée.
Et qui existe toujours aussi.
Qui existe toujours, qui était spécialisée dans les figurines d'excellence, on va dire. Pour ce qu'on appelle le lore, mais je reviendrai sur ça un peu plus tard.
Et c'est toujours vrai aujourd'hui, effectivement. En 86, il y a aussi un jeu de rôle qui s'appelait tout simplement Warhammer, puisqu'ils ont tiré un jeu de rôle de leur jeu.
Et c'était très bien.
Très bien. Moi, c'était mon premier jeu, mon vrai jeu. Et ça m'a beaucoup marqué, à tel point que j'ai la dernière version, l'édition qui était sortie il y a 3-4 ans peut-être.
Alors donc ça, maintenant par contre, c'est un éditeur français
Black Books, un truc comme ça.
Black Library.
Je sais plus. Ça c'est Games Workshop.
Black Library, ouais. C'est les Games Workshop, ouais. C'est leur.
Mais la suite de l'histoire, c'est que quand ils sont partis, Yann et Steve, c'était un directeur général qui est arrivé, je me rappelle plus de son nom. Il a vraiment développé leur manière ultra capitaliste. C'est peut-être ça. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire de nouveaux jeux. Alors on en reparlera après. Ils sont associés avec THQ pour faire des jeux vidéo. Ils ont commencé à publier des romans dans les années 90, peut-être même avant, mais en tout cas nous en France on les a vus dans les années 90, et ils sont rentrés en bourse en 94. Alors la bourse de Londres certes, mais enfin c'était quand même la plus grande bourse du monde. Et depuis 30 ans, ils continuent leur marche en avant avec une politique commerciale qui est ultra agressive à mon sens, et ça fait grincer les dents de nombreux clients. J'entendais déjà les critiques qu'on peut entendre aujourd'hui, comme quoi ils sont très orientés sur l'argent, on paye les figurines non pas pour ce qu'elles coûtent en termes de production, mais par rapport à leur valeur de jeu, ce qui est quand même une vraie question. Et ça fait 30 ans que j'entends ça, depuis au moins 95, et leur valeur boursière depuis 94 a été multipliée par 90.
J'aurais pu investir, moi.
C'est-à-dire que, ouais. Et ils ont distribué ils ont distribué de l'intéressement à leurs salariés du Royaume-Uni l'année dernière. C'était supérieur à celui de Google. C'était à peu près 5000 livres par personne. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Le chiffre d'affaires, à votre avis, combien Games Workshop peut faire de chiffre d'affaires mondial en vendant des petites figurines en plastique?
Ça se compte en milliards, il me semble.
Alors non, mais c'est quand même 500 millions d'euros, un peu plus.
Pas mal.
Et la moitié, alors ça m'a surpris quand j'ai découvert, la moitié aux États-Unis.
En même temps, c'est grand.
Et donc ils ont vraiment, je ne savais pas du tout qu'ils avaient autant percé aux États-Unis, mais c'est vrai qu'ils ont commencé très tôt. En 84 avec leur boutique sur le sol américain, mais déjà avant ils avaient des distributeurs, donc ça fait super longtemps. Et effectivement, il y a des centaines de milliers de joueurs aujourd'hui qui sont dans le monde. Ça se renouvelle en permanence. Moi-même, j'étais un joueur il y a 30-40 ans. J'ai fait une pause pendant 20 ans et j'ai repris. Alors j'ai repris pour plein de raisons, c'est surtout parce que j'ai plus de temps peut-être et parce qu'il y a plus d'argent, parce qu'il faut avoir de l'argent pour jouer à Games Workshop, en tout cas à certains jeux. Et c'est surtout une sorte de figurine. Aujourd'hui, en 2022, Games Workshop a vendu dans le monde 4 millions de figurines. Sachant que la figurine la moins chère doit être vendue à 15 euros et la plus chère elle peut atteindre 1 400 $ quand c'est des énormes figurines de robots immenses, etc. C'est quelque chose d'énorme en fait. Games Workshop, beaucoup plus gros qu'on pourrait croire quand on passe devant une boutique et qu'on voit un plateau de jeu sur une table de jeu avec deux gamins qui tournent autour.
Et ils sont maintenant passés en figurine en plastique, c'est-à-dire que les coûts de revient de la figurine, c'est les droits payés aux sculpteurs, et encore maintenant c'est des salariés, enfin c'est une très très bonne affaire.
T'avais pas une anecdote d'ailleurs sur les
figurines
en métal? Alors
oui, tout à fait, la directrice de Game Workshop France cherchait des fondeurs de figurines.
C'était en quelle année ça?
C'était vraiment au tout début de l'arrivée en France, et je l'ai su incidemment. Je discutais avec mon cousin qui a 2 ans de plus que moi, qui travaille, qui a une entreprise qui travaille les métaux non ferreux, qui fait des baguettes et soudées et qui moule des figurines pour les pompiers, la Légion, les machins et tout ça. Et donc elle a été contactée par cette dame et il a fait des figurines Games Workshop pendant presque un an.
Ok, donc certaines étaient fabriquées en France, alors si je comprends bien.
Ah au moins à cette époque-là. Je pourrais lui demander quelle année c'était, s'il s'en souvient, mais je sais que c'est quand il m'avait annoncé le truc, j'étais arrivé professionnellement dans le monde du jeu, j'étais vraiment très très surpris, quoi. C'était une découverte.
Parce que Games Workshop, ils ont une politique de rester anglais dans la fabrication de leurs produits, non?
Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ils ont des usines de production qui sont immenses. Je me demande si elles sont pas à Nottingham, d'ailleurs, toujours. En tout cas, dans le nord reste anglaise, ça fait vivre beaucoup de gens. Il y a beaucoup de fournisseurs aussi de Games Workshop. Donc, c'est quelque chose de très très important dans un paysage d'ailleurs industriel qui était un petit peu comme dévasté, sinistré. Et effectivement, ils ont des productions qui sont. Alors, je crois que c'est un petit peu automatisé évidemment aujourd'hui. C'est au Royaume-Uni. D'ailleurs, si on achète une boîte aujourd'hui, je crois que la quasiment toutes sont marquées Made in UK. Aujourd'hui, et ils vont développer encore, mais vraiment beaucoup leur capacité de production, parce que là ils ont des problèmes de vente. Ils ont trop de succès. C'est comme pour le Hellfest, les billets se vendent en 15 minutes. Tous les samedis il y a des Battle Force, des machins, donc c'est des ensembles de figurines qui peuvent permettre de jouer, qui sont vendus à des prix quand même assez faramineux. On parle de 130, 155, 180 euros. Ça se vend en 10 minutes, 15 minutes. Et puis après on ne peut plus les avoir, c'est complètement fait. Alors ça peut être une politique commerciale certes, mais je pense que c'est surtout un problème de capacité. Ils sont pas débordés, mais ils ont un succès, ils n'arrivent pas encore à suivre le succès, et ça continue à monter. Il y a de plus en plus de gens qui jouent.
Alors, il y a de plus en plus de gens qui jouent, mais aussi de plus en plus de gens qui en font la pub. Tu parlais tout à l'heure de leur percée aux États-Unis. Une des principales choses qu'ils sont allés piquer aux États-Unis, ce sont les auteurs. Tu parlais des livres qu'ils ont sortis en 90. Un des auteurs phares de Warhammer, c'est Dan Abnett.
Qui
sont allés chercher aux États-Unis, mais pas n'importe où, chez Marvel, à qui on doit l'équipe des Gardiens de la Galaxie qu'on a vu au cinéma, qui est la deuxième équipe des Gardiens de la Galaxie, mais ils sont allés chercher chez les auteurs de romans, alors même qu'il y avait cette habitude, même en France, où des auteurs de romans de fantasy avaient eu une initiation au jeu de rôle, ou en tout cas à la scénarisation de jeux de rôle pour construire leur récit. Là, Game Workshop, quand ils ont voulu créer ce qu'on appelle le lore, et je reviendrai sur ce terme plus tard, ils sont allés chercher des auteurs qui vendent du rêve et pas qui construisent des scénarios. Ce qui peut poser problème sur certains livres, mais ça on reviendra un peu plus tard là-dessus.
Très très jeunes auteurs. Très jeunes
auteurs. Et ils les gardent. Bon. Autre chose, c'est que c'est quelque chose qui a tellement marqué une génération que des leaders d'opinion qu'on peut avoir maintenant sur des générations plutôt jeunes ont grandi avec ça et en sont fans. Et il y a un exemple type pour ça, c'est Henry Calville. une des plus grosses têtes d'affiche qui va parler de Warhammer et qui est capable d'arriver sur la scène en disant je vais faire un film Warhammer, c'est Superman. C'est le sorceleur, c'est un monstre.
C'est l'acteur hein, qui joue, c'est pas le vrai
oui,
en fait.
Oui, hein. Bien sûr, mais...
Ah, c'est bon.
Bon alors, on est à la limite de l'acteur et du playboy suivant à qui on pose la question sur ses talents cinématographiques. Merci Audrey. Mais sinon, enfin, on a quand même des gens qui sont capables de parler à toute une population qui n'en ont jamais entendu en disant ça c'est bien et qui vont donc donner envie à des personnes, pas forcément de jouer, mais en tout cas de collectionner.
J'ai pas trop compris là, il y a un film Warhammer qui se prépare.
Ouais.
Non, enfin, on sait pas. On ne sait pas aujourd'hui. Tout le monde aimerait qu'Henry Cavill puisse y participer, vu qu'il s'est retiré du rôle de Superman et du sorceleur, et qu'il est fan. Mais je crois que c'est un rêve des fans. Pourquoi pas ?
Alors, lui, il est clair sur sa position en disant je vais faire un film et je sais d'ailleurs. Voici le personnage que je vais faire. C'est un film Warhammer 40 000. Après, il faut trouver la production, il faut trouver l'argent, il faut trouver plein de choses. Mais en tout cas, lui, il est posé et du coup, il y a tous les fans de Henry Cavill et les fans de Warhammer qui sont là.
Alors trouver un producteur qu'on a Henry Cavill, c'est moins dur effectivement. Il y a aussi le fait que Games Workshop, ça fait penser à ça. Ils maîtrisent complètement leur univers, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'être cohérents au maximum. Ils maîtrisent et on n'a pas le droit d'y toucher. Et attention, si on y touche, on s'en prend plein la tête. Même si aujourd'hui on a un petit créateur dans un coin qui fait un film sur Warhammer 40 000, ils arrivent, ils disent attention, vous faites un truc que vous n'avez pas le droit de faire et on peut demander de retirer la
comme
la
Star
vidéo.
Wars les a embêtés
voilà. Comme le Seigneur des Anneaux en fait comme Gary Gygax.
Et les influenceurs aussi peinture, il y en a beaucoup qui rêvent d'avoir sur YouTube, qui rêvent alors, surtout sur YouTube.
Il y en a un Brié qui est assez connu d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais
c'est pas que des jeunes, enfin il y a quand même pas mal de jeunes, que ça soit en France ou dans les autres pays, ils essayent d'avoir, c'est le sésame d'avoir le partenaire Games Workshop, et même des gens qui ont beaucoup d'abonnés ne l'ont pas forcément parce qu'il faut absolument rentrer dans certaines cases. Ils regardent l'historique même quand les chaînes n'étaient pas connues.
Alors, du coup, ça permet, moi, de faire mon introduction avec le lore. Ce terme un petit peu particulier, le lore, la traduction anglaise de ce mot, L-O-R-E, c'est la tradition orale, pas écrite. Le lore, c'est donc ce qu'on pourrait rapprocher en français de univers étendu. C'est quelque chose qui est très important dans Warhammer, comme tu le disais. Et puis, on l'a vu dans Star Wars, Star Trek, etc. Tout ce qui est en fait des univers imaginaires ont voulu construire et asseoir leur base. Je vous disais tout à l'heure qu'ils avaient décidé, dans les années 90, de créer des romans qui étaient un petit peu pour eux sur le terme scénaristiquement, mais qui vendaient du rêve, quand même de la grosse dystopie. Et puis, comme tu le disais, dans les livres de règles, dans les infojeux magazines ou dans n'importe quel périodique, ils en rajoutaient un petit peu, parfois en se contredisant, mais c'était suffisamment pour eux pour que de toute façon tout puisse retrouver sa place. Et c'est un petit peu à la fois leur plus grande force et leur plus grande faiblesse, c'est qu'ils ont créé des univers totalement étendus qu'on s'est retrouvé dans les années 2000-2010 avec des gens qui arrivaient en s'accaparant et en s'appropriant une partie de cet univers-là et en le revendiquant. Et on arrive sur Warhammer 40 000, qui est un univers totalement dystopique et qui récrimine toute une façon de penser très réac et qui avait été récupérée
de façon caricaturale quand même.
Tout le monde l'a critique. Mais tout le monde, il y a des gens qui se sont revendiqués de cette manière de penser, ce qui a posé problème, notamment avec la campagne de 2006, je crois, où des joueurs avaient été interdits aux États-Unis de venir jouer parce qu'ils portaient des symboles néo-nazis sur les bras et se revendiquaient néo-nazis dans leur manière de jouer. Donc, c'est aussi pour cette partie-là où Game Workshop fait très très attention à la manière dont on s'approprie et comment est-ce qu'on utilise, parce que ils savent très bien que ils ont tout un pan de leur univers qui peut être très très mal interprété si on est premier degré.
Ok. C'est d'ailleurs, si on veut comprendre les scripts Game Workshop quand on le connaît pas, on peut aller regarder le film Starship Troopers, qui est quelque part un cousin dans l'état d'esprit de Warhammer 40 000, justement, ce jeu d'eau.
Les armures sont moins belles.
Les monstres sont quasiment identiques et l'état d'esprit complètement justement caricatural, poussé à l'extrême du fascisme qui en devient absurde et donc on peut en rire. Je pense que c'est un peu l'esprit de Warhammer 40 000. Même si effectivement il y a des degrés de compréhension, je veux dire, j'ai l'impression que plus on est jeune et moins on voit ça heureux, enfin bien heureusement, il n'y a pas cet aspect politique. Et puis certains s'en sont emparés, mais ils sont quand même très peu nombreux, heureusement.
film de Paul Verhoeven qui est tiré d'un roman de Robert Heinlein, que je n'ai pas lu. Et alors, toi, est-ce que le ton était différent? Est-ce que lui, il avait fait un peu premier degré?
Alors, il était traité de faucon. C'est sa polémique. Mais effectivement, il était traité de faucon.
Ce qu'il ne faut pas oublier aussi pour Robert Heinlein, l'auteur de
Starship Troopers,
garde à vous, Starship Trooper, c'est que il a fait partie de l'équivalent de la Red Team en France actuelle à l'époque. C'est qu'on était dans une époque où il fallait faire de la propagande.
Alors là, c'était pendant la guerre froide, non?
Non, c'est Vietnam.
C'est Vietnam, oui, d'accord. Ouais. Et il y avait alors autant. Okay. Autant le film de Paul Verhoeven critique totalement cette attitude américaine très néo-colonialisme de la guerre du Vietnam, autant quand tu lis Starship Trooper, on est plutôt dans la propagande où être un bon citoyen, c'est s'enrôler.
Alors que le reste de son œuvre est pas du tout comme ça.
Ouais. Non, il y a même, alors je ne sais plus quel roman, tu vas peut-être me le dire, il y a un roman qui était pris en, enfin qui était culte chez les gens qui avaient fait Mai 68, hein, je ne sais plus lequel. Non, je pense que, enfin,
Porte de l'été.
Ouais, je ne sais plus. Mais il n'avait pas eu un père qui était colonel ou quelque chose comme ça.
Alors effectivement, ouais. Il était élevé dans un milieu militaire, mais Starship Trooper. Moi personnellement, je l'ai relu après avoir vu le film de Verhoeven, où j'avais bien compris que c'était du second degré. Et on peut se demander en lisant le bouquin si c'est du premier ou du second. Mais c'est pas le caractère du mec, donc ça laisse le doute.
Ok. Et moi, alors comme influence, alors je connais pas trop Warhammer 40 000, mais j'ai acheté un jeu quand j'étais gamin qui s'appelait Space Hulk.
Ah, très bien.
Oui,
qui est donc dans cet univers-là. Donc on balance des marines en fait dans des vaisseau rempli de Gene Stealers. Et pour moi, l'influence c'était plutôt Aliens quoi, Alien 2.
J'ai
une bande de marines qu'on envoie taper sur des
gens. On a joué. Alors il existe un jeu vidéo. Ouais. Et à l'époque, mon frère bossait pour Ziff Davis, donc des gros ordinateurs en réseau, machin et tout ça, et on jouait le soir. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on jouait avec des casques, et puis on s'est dit, ouais, c'est con les casques et tout. Sauf que tout est en stéréo, et on entend gueuler l'alien, parce que c'est quand ils gueulent dans le Space Hulk, on sait qu'ils sont en train d'arriver.
Ah.
Et on les entendait crier, et du coup, on allumait les lumières, quand même.
Et c'était un jeu de plateau,
c'était un jeu. Ça semblait étrangement, on dirigeait deux Space Marines chacun. Alors, celui qui était bien en face du couloir où il y avait les Gene Stealers quand on tirait, ça allait. Sinon, il était en mode de tout, ça marchait pas.
Donc, c'était un Doom-like, quand même.
Ah, oui.
Ouais. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler tous les jeux, mais ça serait bien de faire une deuxième émission, puis peut-être d'inviter le.
Mais oui, effectivement, il est 21h54.
Le vendeur de la boutique Warhammer.
Ouais.
Pour replacer, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un Space Marine? C'est une espèce d'énorme guerrier avec une énorme armure
Et après, on a dit qu'il fallait pas prendre tout au premier degré. Non. Le Space Marine, c'est un individu récupéré à l'adolescence, à qui on va greffer de manière forcée des nouveaux organes, de manière à développer son organisme, de manière à pouvoir lui en greffer encore de nouveau, et ainsi de suite, 4 fois. Il survit, eh ben, on l'entraîne.
Et si jamais survit l'entraînement,
il devient un Space Marine. Donc en fait, c'est plus un humain. C'est l'étape suivante de l'évolution de l'humanité. Mais pour ça, il y a toute une raison. Et là encore, c'est de la grosse caricature où on cherche la perfection. Et c'est clairement dit, c'est la perfection de l'humanité. C'est à travers ses capacités guerrières, puisqu'on leur retire absolument toute compétence sociale ou autre.
Alors le mythe du surhomme, ça vous dit peut-être quelque chose, quoi. C'est ça, c'est
Nietzsche.
Nietzsche, et puis qui a été repris par les nazis. Donc effectivement, ça c'est une caricature du nazisme, hein, clairement.
Bon, Pierre-Marie, tu avais un bouquin à nous présenter, mais finalement, on va peut-être le faire une autre fois.
Bah oui.
Parce que là, on va bientôt rendre l'antenne.
Oui, et puis j'ai une superbe musique à vous faire écouter, mais
qui est
extrêmement intéressante.
Ah, on pourrait pas la passer la prochaine fois?
Est-ce que c'est du métal?
Ah, c'était une shreddeuse.
C'est du métal.
Mais moi, je voulais terminer l'émission par encore un groupe qui a fait un album sur le label Warhammer Records, donc en 1993. Hein, je pense quand ce truc a été lancé et qui n'a pas duré très longtemps. C'est un groupe de hard rock anglais qui s'appelait Rich Rags, et ils ont fait un seul album, Psycho Dead Heads from Outer Space. Et quand vous regardez la couve, c'est carrément un visuel de Space Hulk, hein, où on voit
les Gene Stealers
qui arrivent vers vous, et donc le morceau que j'ai choisi s'appelle Generation Bubblegum Hell. Je pense que ça nous Parfait. Correspond assez bien.
Parfait.
Donc je propose qu'on termine là-dessus pour ce soir.
Okay.
Sur Radio G. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission.
Bonsoir.
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 Imaginaire.
Bonsoir. Ciao.